On va parler de l'excellence. À la poursuite de l'excellence. S'il y a bien une chose qui n'est pas naturelle chez l'être humain, c'est l'excellence. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. S'il y a quelque chose, si vous avez la même chose à 1 mètre ou à 2 mètres, vous allez la chercher à 1 mètre et pas à 2. Et je dirais, c'est souvent notre première disposition. Je suis tombé sur une image assez parlante, justement, qui nous montre cette faculté de l'être humain à prendre la facilité. Si tu peux mettre la prochaine diapo. Ça, c'est pour vous montrer comment, parfois, à quel point, même lorsqu'on sait qu'on va faire un effort jusqu'à la dernière seconde, si on peut choisir la facilité, on va le faire. Parce que c'est pas naturel chez nous. C'est pas naturel d'aller chercher l'effort. C'est pas naturel, j'irai, si j'ai les choses, si on me donne 1 million à rien faire, je vais opter pour le million. Parce que c'est comme ça, ça vient de, je dirais, plus le temps avance, plus la société nous pousse à ça. Quelques années, je vivais au Canada et il y a cette faculté extraordinaire de pouvoir acheter les choses et les payer 3 années après. Et certains s'équipent entièrement leur maison, puis je me suis même un jour fait cette réflexion, moi je vais m'équiper, puis comme dans 3 ans je suis plus au Canada, bon toujours attends, non je ne l'ai pas fait, c'est du vol, mais... C'est sûr que la réflexion m'est venue, mais je me dis, mais comment ils s'en sortent? Parce que on vous pousse à la facilité. Il faut obtenir maintenant sans faire aucun effort, mais prenez-le. Puis il y a toute cette dimension, on cherche et puis, vous savez, bientôt, il y a eu le riz en 10 minutes, le riz en 5 minutes, bientôt on va vous le mettre, il est cuit, vous pourrez aller jeter chaud, le manger sur place. On cherche et on fait tout pour anéantir l'effort. Il faut que les gens n'aient plus d'effort à faire. Seulement, c'est un mauvais pli qu'on donne à la société. Parce que dans une société où on va dire il faut commencer à faire des efforts parce qu'on s'aperçoit que le monde va de plus en plus mal, que certaines mêmes lois qui ont été passées, on se dit peut-être qu'il faut revenir en arrière, on a peut-être trop facilité la vie des gens, mais maintenant ça pose un problème parce que revenir en arrière, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué aux gens de dire maintenant il va falloir plus travailler ou maintenant il va falloir faire ça différemment. Voilà. Ouh là là, tu m'as donné un privilège, t'as intérêt à me le laisser. Parce que c'est pas naturel, c'est pas quelque chose qu'on va pas poursuivre l'effort naturellement. Ça va demander un engagement de ma part, ça va demander d'abord un choix comme on va le voir, mais ça va demander un engagement de tous les jours. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait un effort que demain ça sera plus naturel. Non, ça sera encore pas naturel, il va falloir que je redouble à nouveau, il faut que j'aille chercher l'effort. Et cette notion de l'excellence ne tombe pas du ciel. L'excellence n'est pas quelque chose qui arrive naturellement ou qui arrive par la prière. Dieu nous aide. Mais si je désire atteindre l'excellence, si je désire atteindre tout ce que Dieu a pour moi, toute la vie que Dieu veut me faire vivre, il me faut faire l'effort qui va avec. Prier ne suffit pas. Prie avant tout. Oui, ça c'est sûr. Mais ensuite, lève-toi et fais, agis. Quelqu'un disait, après, l'inspiration vient la transpiration. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir un Dieu qui parle. À un moment donné, il faut passer à l'action, il faut faire l'effort. Et Dieu attend ça de nous. Et l'excellence, la poursuite de l'excellence, est, j'irais, une raison est centrale, une attitude centrale dans le christianisme. Et lorsque je lis la Bible, c'est quelque chose réellement de central. L'excellence est centrale dans le christianisme. Parce que lorsqu'on regarde déjà Dieu lui-même, Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu a fait tout parfaitement. J'aime tout ce passage de la création et Dieu conclut par tout ce que j'ai fait parfait et très bon. Parce que Dieu ne donne pas un minimum. Dieu n'est pas en train toujours de compter ses billes comme si il lui fallait en réserve au cas où il n'en avait plus. Non, Dieu donne, et Dieu donne avec excellence. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et tout est beau. Lorsqu'on regarde l'amour de Dieu, il est excellent. Lorsqu'on regarde le sacrifice que Jésus a accompli pour nous, il est excellent. Dieu n'a rien fait à moitié. Dieu n'a rien fait en essayant d'avoir un minimum à faire. Non, Dieu a donné et donné avec excellence. Et Dieu fait et Dieu nous aime avec excellence. Et Dieu transforme les vies avec excellence. Et Dieu nous parle avec excellence. Et Dieu a tout fait de son côté pour que nous puissions atteindre l'excellence. Mais ça n'empêchera jamais que c'est à nous, maintenant, de faire le nécessaire pour atteindre cette excellence à laquelle Dieu nous appelle. C'est ce que Paul dira aux Philippiens. Il va dire au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Certains lisent la loi dans l'Ancien Testament et puis se disent, mince, c'est sûr que ça devait être compliqué à l'époque, avec tous les rites, tout ce qu'il fallait faire, toutes les lois. Mais lorsque Jésus est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est que, bien sûr, il n'allait pas détruire la loi ou renier la loi, mais il était venu pour accomplir aussi ce qui avait été dit. Et Jésus va même aller plus loin. Jésus va dire à tous ceux qui l'entourent, on vous a dit et vous avez entendu dire, vous ne tuerez point. Mais moi je vous dis que celui qui insulte son frère est passible d'un jugement. Jésus va dire, vous avez lu dans la loi, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que convoiter simplement une femme avec le regard est un adultère. Jésus va dire, vous avez entendu dire, et la loi dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, bénissez et aimez vos ennemis. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. L'excellence est majeure dans le christianisme. Et Jésus est venu, et ça a choqué la culture. Jésus est venu parce qu'il dit, ne vous contentez pas juste d'appliquer des règles. Ne vous contentez pas de dire, j'ai fait ce que j'ai à faire, maintenant c'est bon. J'ai rempli ma case, j'ai fait ma fiche horaire, j'ai pointé, j'ai mon nombre d'horaires dans ma journée de travail. C'est bon, c'est fait. Non, Jésus va dire, recherchez l'excellence. Il y a encore plus à atteindre. Moi, ce que j'ai à vous donner est excellent. Alors cherchez, ayez une attitude d'excellence. Il va dire tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Si simplement le monde, juste ce verset-là, était mis en application, ça changerait tellement de choses. Tellement de choses. Mais souvent, on préfère que les gens fassent avant. Hein. Après, on voit si on fait ou pas. Il va dire tout ce que, Paul va dire tout ce que vous mangez, que lorsque vous buvez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il y a un désir de plaire à un Dieu, un désir d'excellence face à l'excellence que Jésus a eue pour moi. Il y a un désir de maintenant l'excellence que je vais donner à mon tour envers lui. Paul va dire poursuivez la paix, poursuivez la sanctification. Il va dire regardez à Jésus qui ne s'est pas lassé à cause de toute l'opposition qu'il a vécue, qui ne s'est pas lassé, qui n'a pas été découragé, qui a dit vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang luttant contre le péché. Paul n'hésite pas à parler de lutte, n'hésite pas à parler de combat, comme on le voit en ce moment avec les jeunes adultes. Parce que c'est ça, obtenir va nous demander un prix. Pierre va dire, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, à la patience, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Oui, aimer, ça demande un effort. Oui, être patient, ça demande un effort. Oui, être maître de soi, ça demande un effort. C'est pas juste, Seigneur, fais-le pour moi, comme une espèce de baguette magique. Non, ça me demande un effort. Ça demande un travail sur moi-même. Dieu m'accompagne dans ce travail, mais il faut que je m'engage dans cet effort. La foi ne suffit pas. Les belles paroles ne suffit pas. Notre belle confession devant Dieu ne suffit pas. Parce que Jésus, son excellence n'a pas été en parole seulement, mais en acte. Et notre nature qui est si prompte à la facilité, nous devons constamment aller contraire à notre nature et aller vers cette excellence. Parce que bien des choses nous poussent à la médiocrité. Déjà, c'est très naturel chez l'être humain. Mais en plus de cela, il y a plein d'éléments dans notre vie qui font que ça va encore plus nous pousser dans la médiocrité. Par exemple, le manque de vigilance. Comme Paul va dire que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Lorsqu'on commence à prendre les choses pour acquis, on vit une espèce de vie chrétienne par acquis parce que je le sais, puis il y a beaucoup de choses, je sais, mais finalement il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus ce désir, il n'y a plus cette passion. Oui, je suis chrétien, mais il y a beaucoup de chrétiens qui le sont juste de nom, juste parce qu'ils viennent le dimanche à l'église. Parce que lorsque Dieu regarde à leur vie, l'essence même du christianisme n'y est plus. toute cette notion d'aller toujours plus loin. Une des choses qui nous pousse à la médiocrité, c'est l'incompréhension. Pourquoi ? Tout ce que j'ai fait a servi à rien. J'ai tellement donné, j'ai tellement essayé, j'ai fait, puis je ne réussis pas. Alors maintenant, on va me contenter d'un bon fauteuil. Et ça nous pousse à la médiocrité. L'échec aussi. La Bible nous dit qu'un espoir différé, un espoir, j'ai été proche de l'avoir, puis il a été différé, rend le cœur malade. Et ça ne nous emmène pas, l'échec nous emmène rarement à bondir de joie. Ça nous demande, souvent, ça nous assoit un bon coup. Ça nous demande un double effort pour nous relever et recommencer, et continuer et avancer à nouveau. Pourtant, c'est ce à quoi Jésus nous appelle. L'envie aussi, comme Asaph, l'auteur du psaume 73, qui va dire « Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Asaph va voir un bonheur qui est là. Une espèce de facilité qu'ils ont l'impression de vivre. Mais moi, j'ai fait des efforts, j'ai fait tellement de choses, puis c'est dur. Puis il a commencé à être attiré parce que l'envie de la facilité. Parce que quoi qu'on en pense, si j'enlève toute la dimension, bien sûr, d'un Dieu qui est avec nous, qui est fidèle, mais si je parle en termes de très concret, c'est plus difficile d'être chrétien que non-chrétien. C'est plus facile de tricher que de ne pas tricher. C'est plus facile de ne pas déclarer parce qu'on sait que je vais y gagner que de déclarer. Non, il y a plus de facilité à ne pas être chrétien, il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, Dieu nous accompagne là-dedans. Bien sûr, nous avons le surnaturel de Dieu avec nous. Puis, et c'est passionnant, la vie chrétienne. Je ne veux pas tous vous décourager que vous repartez de là parce que ce que j'ai fait d'être chrétien. Ce n'est pas le but. Mais il y a une réalité dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une espèce de vie à pétales de rose. C'est la vraie vie, la vie chrétienne. La vraie vie où Dieu nous accompagne, où Dieu est là. Oui, Dieu nous fait vivre son miracle. Dieu est là, nous insiste. Et il y a tellement de beauté à cela. Mais je suis appelé à vivre des choses incroyables. Mais ça demande ma participation. La paresse aussi. Les proverbes vont nous dire, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'avais vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Si notre vie chrétienne ressemble à un champ, qu'en est-il ? Est-ce que Dieu y voit plus de mauvaises herbes que de semences ? Est-ce que Dieu voit des ronces, une espèce de truc chaotique ? On ne sait plus trop ce que c'est, ce qui a été planté ou non. À quoi ressemble notre vie ? À quoi ressemblent tous ces efforts qu'on faisait si passionnément pour Dieu avant ? Où en sont-ils ? Où est cet élan ? Où est cet élan dans la prière ? Où est cet élan juste d'aimer Dieu, d'être passionné dans tout ce que je fais ? Et où est cet élan parce que j'aime Dieu avec excellence et je veux découvrir Dieu ? Où est cet élan ? Où est cette soif ? Où est cette faim ? La souffrance nous attire aussi à la médiocrité. Job va dire, garde-toi de te livrer aux mains, car la souffrance t'y dispose. La souffrance nous pousse à en faire moins, parce que déjà on souffre. Et la tentation serait justement de nous arrêter. Et Pierre lui va dire à tous ceux qui souffrent, de remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. La souffrance n'est pas une excuse à ne rien faire. Puis là je dis ça avec beaucoup de compassion, je sais ce que c'est la souffrance. Mais ça ne nous empêche pas d'être médiocre. Ça nous empêche de rechercher là. Juste dire non, écoute, Dieu sait déjà ce que je vis, je ne peux pas en chercher plus loin. J'ai déjà ça, déjà pas mal. Non, il y a une dimension que nous sommes appelés à vivre en tant qu'être humain. Parce que si je suis comme tout le monde, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun intérêt à cela. Aucun intérêt à assister à des réunions à l'église. Excusez-moi, mais vous perdez votre temps. Faites autre chose pendant ce temps-là, sinon vous perdez 2 heures. Là. Parce que si c'est ça votre vie chrétienne, alors posez-vous la question si vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Parce que c'est plus que ça. Il y a tellement un intérêt, il y a tellement une joie, il y a tellement une passion dans cette recherche de l'excellence, dans cette recherche de tout ce que Dieu a pour moi, dans cette recherche de découvrir tout l'élan que Dieu a pour moi et quelle place, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dans le cœur de Dieu. Et de réaliser ça va m'attirer à lui tel un aimant, va littéralement me pousser à l'aimer, pousser à le mettre en premier, pousser à le rechercher. L'opposition, lorsqu'on vit constamment des combats, fois après fois, on est tenté juste à baisser les armes et prendre des temps de « on souffle ». J'entends souvent ça « non, en ce moment, ça ne va pas, alors je ne viens plus trop à l'église, là, je souffle un peu ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu des combats, mais il n'y a aucun soldat qui dit à un gars qui essaye de lui tirer dessus, « Attends, je pose les armes, là, laisse-moi souffler, là, c'est quand même assez lourd, fusil, là, ça fait 3 heures que j'essaye de te tirer dessus. » Seulement, c'est ça ce qu'on entend. Dieu est capable de nous renouveler, Dieu est capable, parce qu'il y a cette recherche de qui est Dieu, je vais aller saisir Dieu, et il se passe quelque chose. Parce que lorsque je suis en contact de Dieu, il y a littéralement le surnaturel de Dieu. Il y a ce que je ne pourrais pas justement faire sans lui qui arrive. Et je peux le faire. Parce que je suis connecté à la source de la vie. Je suis connecté à celui qui rafraîchit, celui qui renouvelle, celui qui me donne les forces nécessaires. Et chaque jour suffisant sa peine. J'ai les forces pour vivre aujourd'hui. Et demain sera demain. Mais aujourd'hui, je vais aller chercher ce qui est nécessaire pour ma vie. Afin d'être à l'image de celui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. L'impatience me pousse à la médiocrité. Je prends ce qui vient. Pas trop envie d'attendre. Seigneur, je pense que tout ce que j'essaye de prendre par impatience sera médiocre parce que ça veut dire que je le prends par moi-même. L'incrédulité nous pousse à la médiocrité. Lorsque je ne crois pas que Dieu peut agir, lorsque je ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose, alors je vais prendre les rênes de ma vie et je vais me mettre à maîtriser moi les choses, moi à faire mes choix directement, sans passer par Dieu. Mais tout ce que j'obtiendrai comme cela sera médiocre en comparé de ce que Dieu aurait pour moi. Mais c'est cette poursuite, cette attente, cette foi en lui. Jésus parlera aussi de la séduction des richesses dans cette parabole du semeur. Cette semence qui a bien grandi, mais qui a été étouffée. Combien de vies chrétiennes sont étouffées par la séduction professionnelle, financière, et tellement d'autres choses, qui sont littéralement étouffées. Il n'y a plus de cette recherche parce qu'ils ont tellement, leur focus est tellement sur autre chose aujourd'hui que sur tout ce qui est autour de Dieu. Pourquoi la Bible nous met en garde contre la médiocrité? Parce qu'elle nous dit une vérité et un principe qui est très clair. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Si vous semez la médiocrité, ne vous attendez pas à l'excellence. Et certains sont littéralement, je vous ai dit, il y a nos prières et ce qu'on fait à Dieu, ce qu'on demande à Dieu, ça, et Dieu répond à la prière. Mais il y a énormément de bénédictions qui ne sont que le résultat de nos actions. Et souvent, on l'oublie cela. Et on demande beaucoup de bénédictions à Dieu où il nous suffirait simplement de nous mettre à l'œuvre. Viens dans ma présence, fais-moi confiance, agis, fais quelque chose. N'attends pas que ça te tombe sur la tête. Il y a eu un homme dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs, des hommes et des femmes qui ont vécu cette vie d'excellence, mais j'aimerais avoir un avec vous. On va prendre en Genèse chapitre 11, vous connaissez cet homme, il s'appelle Abraham. C'est vos Bibles, sinon je crois que le texte va apparaître à l'écran. Dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 31 jusqu'au verset 12, chapitre 12, verset 4, pardon. Je vous ai dit ceci, « Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, et son fils, pardon. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Lorsqu'on lit ce passage, qu'on ne porte pas forcément attention à ce qui se passe, mais l'appel de Dieu n'a pas retenti directement à Abraham. L'appel de Dieu a retenti à la famille d'Abraham. Lorsqu'ils étaient en Mésopotamie, avant d'être dans ce pays de Charan, avant d'aller dans ce pays de Canaan, il y a eu une coupure, il y a eu un moment, ils sont partis de la Mésopotamie, ils ont remonté, ils sont arrêtés à Charan. Et là, de Charan, c'est Abraham qui a continué le reste du voyage avec sa propre famille. Étienne, dans les Actes, va dire que le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant, et il précise qu'il s'établisse à Charan. Donc l'appel de Dieu a retenti à toute une famille qui s'est levée et qui est partie vers le pays de la promesse, vers le pays où allait couler le lait et le miel. Et voilà que toute cette famille va marcher pendant pas mal de temps. Puis il y a une ville intermédiaire justement qui s'appelle Charan. Et là, la Bible nous dit qu'ils vont s'y installer et que le temps va passer, mais le père d'Abraham, Térakh, va mourir à Charan. Mais lorsqu'on calcule, on s'aperçoit qu'Abraham va devoir partir lorsque son père est encore vivant. Toute une famille, imaginez que ce n'est pas juste Abraham, c'est Térakh et puis toute cette famille qui se consulte, ils disent maintenant on obéit à Dieu, on part tous ensemble pour le pays de la promesse, on y va, puis ensemble ils y vont, puis à un moment donné ils se disent bon, on va peut-être faire une petite pause, on continuera, c'est sûr, mais on va s'arrêter à Charan. Et là ils s'arrêtent tous, et puis les mois passent, peut-être les années passent, et puis plus personne bouge, ils s'y installent réellement. Et là l'appel de Dieu retentit à nouveau, et c'est Abraham qui entend l'appel et qui dit non, tu n'es pas arrivé, le pays il est là-bas. Et là, Abraham doit se lever, prendre sa famille proche, quitter son père et toute sa famille et continuer la route, alors que son père, lui, a décidé de s'installer à Charan. Charan signifie le lieu du petit fruit, de ce qui est petit, ce qui est médiocre. Il y avait un pays de la promesse, et sur ce chemin difficile, ils ont rencontré quelques fruits, et Térakh s'est dit, ça me suffira. Ça va suffire. Alors qu'il y avait tellement plus, tellement plus grand. Dieu avait tellement prévu de donner davantage, mais ils se sont arrêtés. Et Abraham a choisi parce que poursuivre l'excellence passe par un choix personnel. Au sein même d'une famille, au sein même d'un couple, l'un et l'autre peuvent vivre les choses de façon différente parce que ça résulte d'un choix d'abord. D'un choix qui est personnel. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Abraham, ça a dû être difficile et peut-être meurtri au niveau de son âme de dire à son père, je m'en vais, parce que c'est ensemble qu'ils sont partis pour ce pays. C'est ensemble qu'ils voulaient la promesse. Mais là, tu t'installes et puis on n'est pas censé être là. Et puis Abraham continue sa route, lui. Et il vivra ce que Dieu a promis de faire avec sa vie. Et Dieu nous a donné tous un pouvoir. Pourquoi je l'appelle le pouvoir ? Ce que j'appelle ce pouvoir, c'est la capacité de choisir. Ce n'est pas un pouvoir magique, mais c'est un pouvoir pour moi parce que deux personnes dans la même situation, qui ont peut-être traversé les mêmes souffrances, peuvent avoir deux destinées complètement différentes à cause de leur choix. Voilà pourquoi le choix est puissant. Le choix peut nous emmener à une destinée complètement opposée. Et il y a certains qui vont faire la liste de toutes les choses qui leur rendent la vie médiocre. Et il y a tous ceux qui, au lieu de voir toute cette liste, voient toute la liste de ce qui pourrait être meilleur et qui choisissent cette option. Qui choisissent, je prends le choix d'aller plus loin, je prends le choix d'aller au-delà de ce que j'ai vécu aujourd'hui, je prends le choix d'aller au-delà de tout ce que je connais aujourd'hui, parce que mon Dieu, c'est pas juste ça, mon Dieu, c'est pas juste des petits fruits, quelques bénédictions par-ci, quelques expériences par-là, il y a tellement plus. Parce que ce que Dieu et ce qu'il y a à vivre avec Dieu est infini. Et la seule personne qui va limiter cela, c'est nous et non Dieu. Parce que Dieu, lui, ses ressources. Elles sont profondes. Elles sont réellement profondes. Et Dieu ne nous a pas fait des espèces de robots. Dieu nous a fait des êtres capables de choisir. Comme cette déclaration de Josué qui a dit « Vous choisissez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je prends le choix. Je fais le choix de le servir. Et toute action que je fais, à moins que vous ayez une arme sous la tempe ou qu'on vous ait forcé, contraint, mais toute action est précédée d'un choix. De notre choix. J'ai choisi. Et l'excellence est un choix personnel. Je peux mettre la faute sur les autres. Je peux dire comment ils ont contribué à ma souffrance. Et c'est peut-être vrai. Et effectivement, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui ne sont pas dues à nos choix, mais parfois aux choix de ceux qui sont autour de nous, de ceux qui nous sont chers, qui ont reporté une souffrance sur notre vie. Mais on pourrait faire la liste justement de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui nous fait traverser aujourd'hui la souffrance, et dire, ben, si j'en suis là, c'est à cause de cette personne, et j'aurais raison. Mais vais-je rester sur cela? Ou bien réaliser que j'ai un Dieu dans le ciel qui n'est pas limité? Et que quel que soit ce que les autres ont provoqué sur ma vie, quelle que soit la souffrance qu'ils ont provoquée, quelles que soient les situations qu'ils ont provoquées, qui m'ont arrêté, qui m'ont déchiré, il y a un Dieu qui libère, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui transforme, qui restaure. Et j'ai la capacité de dire, je peux aller plus loin, je peux continuer ma route. Et non de faire une liste de tout ce qui m'empêche et tout ce qui me conforte dans la médiocrité. Parce que devant Dieu, rien ne tient. Parce qu'on a un Dieu infiniment grand, non limité. Et ce n'est pas ce que les autres ont fait sur ma vie qui empêchera Dieu de m'emmener à devenir ce que je suis censé être. Parce que rien ne l'arrête. Et parce qu'aucune excuse n'est valable devant lui. C'est pour ça que ça commence par votre choix, par mon choix devant Dieu. De dire, je ne resterai pas à Charan. Je ne resterai pas à Charan. Et même dans un couple, oui, ce qu'on désire, c'est être ensemble et avancer ensemble. Et je le souhaite pour chaque couple. Mais même si l'un des deux ne le souhaite pas, ne restez pas à Charan. Ne restez pas à Charan. Parce que ça commence par un choix personnel. Et souvent, lorsqu'un des deux fait ce choix, souvent, ça rejaillit sur l'autre. Parce que Dieu bénit. Et Dieu nous aide. Mais la réalité, c'est que ça commence par un choix personnel. C'est un choix que je fais dans mon existence. De dire, je ne vivrai plus à Charan. Je n'accepterai pas juste un lieu de petits fruits. Je veux juste me contenter de ça. Il y a tellement plus. Le choix de l'excellence. Il y a le choix de l'excellence. Et il y a aussi le fait de s'y engager. Je fais le choix et je m'y engage. Let's go, on y va. Seigneur, je veux sortir de la médiocrité, je veux atteindre ce que tu as pour moi, je veux vivre cette vraie vie, cette vie abondante à laquelle tu m'appelles. Je ne parle pas d'une vie, une espèce de vie où tout est génial, je ne parle pas de cette vie-là, je parle de la vie abondante que Jésus nous propose, c'est quoi qu'il arrive. Et oui, peut arriver la souffrance, mais j'ai accès à une force, j'ai accès à un surnaturel qui est là. Et je peux voir la gloire de Dieu, la main de Dieu dans ma vie parce que je sais me mettre sous la protection divine. Je sais rester proche de Dieu, je suis connecté à lui et j'ai les ressources nécessaires pour traverser quelle que soit la situation. Et vivre cette excellence que Dieu veut me donner. Je m'engage à poursuivre l'excellence en refusant la médiocrité. Dieu parlera à cette église de la Odyssée qui s'est contentée d'un intermédiaire, qui s'est contentée de la tiédeur. Il va dire, je te rejette parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit, puisses-tu même être froid? Parce que Dieu n'est pas un gars, quelqu'un qui va se mettre à genoux, nous supplier, viens, fais-la, mais je veux vraiment te bénir, je t'assure. Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous dit, tu ne veux pas de moi? Vas-y, mais vas-y à fond. Parce que tu t'embêtes entre les deux, ça doit être ennuyeux. Par contre, tu veux venir à moi, alors vas-y à fond. Mais pas entre les deux, pas entre les deux. Et c'est à cette vie-là que Dieu nous appelle. Fais un choix, mais fais-le une fois pour toutes. Et vas-y à fond dans ce choix. Mais choisis et vis ce choix à fond, jour après jour. Je refuse la médiocrité et la tiédeur dans ma vie de prière, dans mon service, dans mon couple. Dans ce que je transmets à mes enfants, à ma famille, dans mon temps, dans mes finances, aussi, je choisis l'excellence. Souvent, on fait les comptes avec Dieu, comme s'il nous devait quelque chose ou comme s'il fallait qu'il justifie le pourquoi je dois donner. S'il y a bien un jour un Dieu qui fera les comptes, c'est bien Dieu aussi. Et Dieu seul fera un jour les comptes, les vrais cette fois. Si Dieu avait autant rechigné à donner, autant que nous on rechigne parfois à lui donner, notre vie serait un enfer. On n'aurait même pas besoin d'attendre l'enfer. Notre vie le serait déjà. Parce qu'aucun espoir, aucune solution, Jésus n'aurait pas été au bout s'il n'avait pas vécu avec excellence, s'il n'avait pas donné entièrement par amour. Je m'engage à poursuivre l'excellence en connaissant le prix. Comme je le disais aujourd'hui, tout à l'heure, il y a un prix. Si vous attendez à l'excellence par la prière et un exaucement, ça ne marchera jamais, vous ne l'aurez jamais. Il y a un prix. Ça demande un effort. Il faut en être conscient lorsque je fais un choix. Si vous faites un choix pour un travail, souvent vous demandez votre salaire. Si vous faites un choix pour une réparation, vous demandez le prix. On est conscient d'un prix, on sait en quoi on s'engage. On s'engage à ça. Et lorsqu'on s'engage dans la vie chrétienne, il faut être conscient du prix. Il faut être conscient qu'il y a un prix. On veut et désirons beaucoup de choses, qu'elles soient spirituelles, humaines ou matérielles. Mais souvent, nous réalisons peu notre part à cela. Vous savez, de toute façon, on va devoir choisir, dans tous les cas, on va devoir payer le prix. Que ce soit le prix du regret ou le prix de l'effort qui m'a apporté quelque chose, mais je vais devoir payer le prix. Quelqu'un a dit, vous devez payer le prix, vous verrez que tout dans la vie a son prix. Et vous devrez décider si le prix en vaut la récompense. Ce que vous poursuivez, quel que soit ce que vous poursuivez, c'est ce que vous allez atteindre. Alors posez-vous la question, si vous voulez vraiment ce que vous poursuivez. Je m'engage à poursuivre l'excellence chaque jour. Parce que c'est un combat constamment. Mais pas un combat dans lequel je suis seul. J'ai accès à des ressources illimitées. J'ai accès à un renouvellement. J'ai accès à tout ce que Dieu peut me donner. Paul va dire aux Galates, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je m'engage à poursuivre l'excellence lors des moments où personne ne me voit. J'en parlais il y a quelques mois de cela. C'est facile, vous savez, quand il y a toute une foule qui est là, tous les gens qui nous encouragent, c'est facile de faire des exploits puis d'aller au-delà de nos propres ressources. Mais quand je suis tout seul, juste face à moi-même, c'est difficile d'être motivé. Plus difficile en tout cas. Souvent, les gens font du sport à deux parce qu'ils se disent, bon, ça va être un peu plus motivant. Mais lorsque je suis tout seul, ça me demande un effort encore plus supplémentaire. Parce que quand quelqu'un me regarde, ça met un peu d'adrénaline, dit, oh, je ne vais pas passer pour un perdant. Je vais faire ce que j'ai à faire. Mais quand je suis tout seul dans ma vie, tout seul, face à des défis, face à des choix, face à la tentation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cède davantage à la médiocrité? L'excellence, c'est aussi lorsque personne ne me voit. Vous savez, j'aime cette histoire de David qui gardait des brebis. Et il raconte à Saül, lorsque Saül va lui dire « Mais non, t'es pas prêt pour être un guerrier. » Il va lui dire « Écoute, moi je suis tout seul avec mes troupeaux, et quand un lion ou un ours vient m'en voler une, ben je lui fonce dedans et je lui arrache. » Moi, si je vois un lion, généralement, je me lance pas dans un corps à corps. Je lui dis « Ok. » Prends ce que tu veux, sauf moi. Mais ça ne marche pas ainsi. Et personne n'aurait reproché à David, dire « Oh mince, sur 100 brebis, t'en manques une. » Ben oui, excuse. Quoi ? T'as pas osé courir après l'ours ? Quoi, tu lui as pas sauté dessus ? Mais personne n'y aurait dit ça. Mais David a développé une attitude. David a développé une attitude d'excellence. Et la Bible nous dit que Dieu avait ses regards sur un jeune homme dont le cœur plaisait à Dieu. Et je dirais, c'est même ça qui va ressortir de l'attitude de David lorsque des gens vont présenter cet homme au roi Saül. Il y a quelque chose qui ressort de l'ordinaire. C'est comme s'il n'y a personne, mais David se défonce et se démène comme si il allait remporter le prix suprême. Non, parce que David était quelqu'un d'excellent. Quelqu'un qui ne se contentait pas de la médiocrité, juste de faire ce qu'il a à faire. J'ai fait le minimum requis. On passe à la suite maintenant. Et chaque chrétien a besoin constamment, de vivre dans ce renouvellement et de chercher à toujours aller plus loin. Je m'engage à poursuivre l'excellence malgré mes dons naturels. Ce n'est pas parce que c'est des dons qu'il ne faut pas que je les travaille. Ce n'est pas parce que j'ai des dons, je fais des choses naturellement qu'il ne faut pas que je continue à aller plus loin. Je m'engage à poursuivre l'excellence malgré les obstacles, les échecs. Une des médaillées d'or olympique, Marie-Lou Retton, jamais sa déclaration, elle va dire « Le fait d'atteindre ce but me procure un sentiment agréable, mais pour y arriver, il faut aussi vivre des échecs. Il faut être capable de se relever et de continuer. » Parce que la vie, c'est aussi faire des erreurs. Et le jour où on sera parfait, vous le serez. Et souvent, on pense que la vie chrétienne doit être complètement sans erreur, ni sans... Il faut absolument pas que je fasse une boulette. Je dis pas qu'il faut chercher à faire des boulettes. Mais à un moment donné, il faut se lancer. Il y a des choses, il faut y aller. Bien sûr, on le fait avec sagesse, mais si Pierre n'avait pas mis le pied hors de la barque, il n'aurait jamais su s'il pouvait marcher sur l'eau. À un moment donné, il faut sortir de notre bas, il faut sortir d'un confort, il faut sortir d'un truc où j'ai ma petite sécurité, j'ai mon petit confort, mes petites habitudes. Il faut à un moment donné dire, il y a peut-être davantage que Dieu m'appelle à faire, à être. Et je termine. La poursuite de l'excellence repose sur ses promesses à lui et nous ramène à la bénédiction. Dieu nous appelle à tendre vers l'excellence, mais il ne nous laisse pas seuls, il nous accompagne. Paul va dire, je puis tout. Par celui qui me fortifie. Paul est conscient. Paul va faire une liste hallucinante. Il va dire, j'ai été presque mort, j'ai été lapidé, j'ai fait deux fois un naufrage. Pas une vie bien rose, tout ça. Mais Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas à moi, c'est pas à mes propres efforts, c'est pas parce que je suis un surhomme que j'ai résisté à tout ça. Ça aurait pas été possible. Mais je suis là aujourd'hui. Et il va dire, je n'ai pas lâché, je continue de combat, j'ai autant la foi, je veux continuer cette course. Paul avait toujours cet élan et cette passion parce qu'il savait où chercher la ressource. Il va dire aux Philippiens, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. De l'Épître aux Hébreux va dire, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous savez, on peut avoir plusieurs réactions vis-à-vis de ce que je viens de dire. Une des premières réactions, c'est de se dire, ça va prendre une éternité. Ça va prendre une éternité. Il y a tellement de choses à changer en moi. Ça va prendre quelques siècles avant que j'y arrive. Donc autant lâcher tout de suite, hein, autant abandonner. Mais commence, vas-y, avance. Parce que Dieu nous surprend. Parce que Dieu est capable de faire bien infini. Nous, on avance, nous, on fait ce qu'on a à faire. Mais par son surnaturel, Dieu nous fait atteindre des choses dont on ne serait pas capable d'atteindre par nous-mêmes. Alors avançons étape par étape. Mais avançons. Choisissons d'avancer, choisissons d'avoir cette vie qui nous conduit encore et davantage toujours vers Dieu. Certains vont dire, j'en suis pas capable, j'ai pourtant déjà tellement essayé. Eh bien, essayez encore. Mais n'essayez pas n'importe comment. Essayez en restant connecté à la source et à votre ressource suprême. Parce que si vous essayez juste par vous-même, juste en faisant plus d'efforts sur le plan humain, ça ne suffira pas. Et Dieu se propose à nous aider. Certains vont dire, à mon âge, on ne change plus. Ça, ce n'est pas biblique. Le changement est toujours d'actualité, quel que soit votre âge. Il n'y a pas d'âge pour changer. Et je trouve ça regrettable quand j'entends des fois des phrases dire, oh, de toute façon, à cet âge-là, je ne sais rien d'essayer, on ne changera pas. Moi, je crois à un Dieu de renouvellement. Je crois à un Dieu de transformation. Je crois à un Dieu qui... quel que soit l'âge, peut nous faire goûter à l'excellence, peut nous faire vivre des choses extraordinaires. La personne qui a le plus marqué ma vie après mes parents, c'est une dame aujourd'hui âgée de 98 ans, qui était ma grand-mère spirituelle, mais mes grand-mères ne sont pas converties, et qui m'a toujours porté, qui m'a toujours inspiré. Et puis je me souviens, elle avait 92 ans, et lorsqu'on prenait le métro avec elle, elle s'arrêtait, elle parlait aux gens, « Toi, tu connais Dieu, toi ?» Puis leur parler de Dieu, une soif, et elle me prenait un part, elle me dit, « Est-ce que tu es toujours passionné pour Dieu ?» Puis j'étais littéralement saisi, parce que je veux dire, cette femme-là, vous pouvez tellement penser à Dieu maintenant, c'est plus que la retraite, c'est plus que l'heure du repos, mais tellement passionnée, tellement encore connectée. Puis souvent, je l'ai appelée, elle me disait, où est-on, ce que t'en es ? Moi, j'étais, elle me dit, hier à 1h du matin, j'ai rencontré quelqu'un dans le métro, puis il s'est converti, j'ai prié pour un malade, il a été guéri, puis je me suis dit, oui, il y a une capacité. Oui, Dieu n'arrête pas avec l'âge. Et David va dire, c'est pas l'âge qui change quelque chose. Tu n'as jamais manqué à mon existence. Et vivre des choses ne relève ni d'un ministère ni d'un âge, mais de notre propre choix à vouloir ou non les vivre et à vouloir s'en saisir. Alors ne laissez personne vous dire que vous êtes trop âgé. Personne. laissez les personnes vous dire que vous n'êtes pas capable parce que physiquement, ça ne suit plus la route. Parce que Dieu n'a pas forcément besoin de notre physique pour faire des choses incroyables avec nous. Et tant qu'on est connecté, tant que notre âme est connectée, la source de vie continue à couler en nous. Et nous sommes capables d'accomplir des choses extraordinaires parce que nous avons notre Dieu qui est extraordinaire. Alors continuons encore. Certains vont dire, oui, mais si les autres ne changent pas, je ne vois pas pourquoi je changerai. C'est un peu cette attitude qu'on retrouve dans le couple. Ah non, attends, moi, si tu ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. Si on avait l'attitude inverse, de dire je vais faire l'effort. Moi, je ne le fais pas parce que les autres me le demandent, parce que d'abord, c'est parce que Dieu me le demande. Je ne le fais pas et ne le faites pas parce que je vous le demande. Ce n'est même pas ça le but. Je ne suis qu'un porte-parole. C'est Dieu qui nous le demande. Il le demande à chacun d'entre nous. Et je réponds d'abord à l'appel de Dieu. Et je ne le fais pas parce que, ou en fonction des autres. Parce qu'il y a tellement de si des fois dans nos choix. Hein. Tellement de listes. Oui, mais si l'église serait différente, je serais tellement autrement. Oui, mais si ma famille serait différente, je serais tellement autrement. On a tellement une liste du pourquoi il y a un tel raisonnement qui excuse notre médiocrité. Alors que nous avons un Dieu qui va tellement au-delà de ça. J'aimerais qu'on prie pendant quelques instants.